Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, la promesse de Christophe Castaner aux policiers choqués par les 24 suicides dans leur rang. Depuis le début de l'année, une cellule de vigilance installée dans les 15 jours. Détail dans un instant. Une phase de solitude pour Emmanuel Macron en Europe. Calendrier du Brexit, négociations avec les États-Unis, politique en Libye. La France se distingue ou est isolée en ce début de printemps sur plusieurs dossiers importants. Analyse à Bruxelles dans un instant. Dans les jours, semaines à venir, le président doit annoncer les mesures prises en réponse à la crise des Gilets jaunes. Le compte-rendu du grand débat fait lundi par le Premier ministre est-il fidèle à la réalité? Quelques doutes depuis ce matin. Toutes les contributions n'ont pas été prises en compte. Qu'en disent les grands garants du grand débat? Nous en entendrons une. La firme américaine Amazon entend vos conversations et les notes. Les propos captés par Alexa, l'assistant vocal, relevés, notés par des petites mains à l'autre bout du monde. Pour faire quoi? Faut-il s'en inquiéter? Les autres assistants vocaux font-ils la même chose? Invité de ce journal pour en parler, le spécialiste du numérique, Gilles Babinet. Dans cette édition encore, ils avaient imaginé un jeu concours pour vendre plus facilement leur manoir. 13 euros le droit d'entrée. Un couple du Périgord a fait parler de lui ces derniers jours. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Bruno.
Sauf que...
Eh bien, ils ont reçu un courrier hier de l'autorité des jeux en ligne. Eh bien, on n'a pas le droit d'organiser un jeu de hasard pour vendre sa maison.
Malgré les mesures prises au fil des années, le nombre de victimes d'accidents au passage à niveau ne diminue pas. Nouveau rapport, il faut une signalétique plus agressive, disent les spécialistes de sécurité routière. Un entraîneur étranger pour le 15 de France de rugby, c'est non. Le résultat de la consultation du rugby amateur vient de tomber. La météo, bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Début de week-end sous le soleil.
Ah oui, soleil généreux pour cet après-midi. Au nord de la Seine, sur le nord-est et le long des Pyrénées, des nuages vont fleurir dans le ciel bleu. Mais en Corse et du Var aux Alpes-Maritimes et Hautes-Alpes, l'après-midi sera encore rythmé par des averses, des orages et même de la grêle. Côté température, prévoyez 10 degrés à Lille mais 21 degrés à Montpellier avec 13 degrés pour Paris et 17 pour Toulouse.
Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Un policier se suicide tous les 4 jours en France depuis le début de l'année. 24 morts, 2 encore le week-end dernier. Quelle réponse le ministre de l'Intérieur apporte-t-il à ce drame que vivent des dizaines de familles? Car évidemment, ce n'est pas la première fois que ce très lourd sujet fait la une. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Spécialiste des questions de police à France Inter. Christophe Castaner était à l'hôpital des gardiens de la paix à Paris ce matin. Quelques annonces.
Oui, sachant qu'en 2018, Bruno, 35 policiers et 33 gendarmes se sont suicidés. Le ministre et son secrétaire d'État, Laurent Nunez, ont multiplié les réunions avec les syndicats ces derniers mois. Et donc cette annonce ce matin sur la création d'une cellule alerte prévention suicide.
Je souhaite aussi que, au moment de la crise, au moment où une personne suicidaire tente de passer à l'acte, elle puisse aussi avoir une écoute, une orientation. J'ai mis en place une cellule de vigilance sur la question du suicide que j'installerai dans les 15 jours. Pour qu'elle anime la réflexion, qu'elle soit disponible, pour qu'un policier, un gendarme, un fonctionnaire du ministère puisse 24 heures sur 24 trouver une oreille attentive et puisse être ensuite accompagné.
Christophe Castaner ce matin au micro de Christophe Richer. Il y a donc un numéro de téléphone, Emmanuel?
Oui, il sera disponible, vous l'avez entendu, 24 heures sur 24. Il doit permettre de signaler les risques, de mettre les personnes en souffrance en relation avec des psychologues. Les syndicats de police de leur côté estiment qu'il y a des commissariats où les relations humaines sont aujourd'hui extrêmement dégradées, qu'ils sont parfaitement répertoriés et ils réclament là des mesures d'urgence.
Et on verra si celles-ci les satisfont. Le syndicat de police Unité SGP Police FO accusait ce matin des hiérarchies de pousser les policiers au burn-out. Le compte-rendu des semaines de débat dans les réunions locales, des cahiers de doléances, des contributions sur Internet, ce compte-rendu dressé lundi par le Premier ministre est-il parfaitement sincère? Le cabinet d'audit Roland Berger a des doutes. 2 points soulevés. Faute de temps, seule une partie des contributions ont été prises en compte dans le résumé de lundi. Et puis 2e point, plus gênant, la demande pressante d'un retour de l'impôt sur la fortune dans son ancienne version semble avoir été sous-estimée, toujours selon ce cabinet. Alors qu'en disent les garants du débat? Question posée à l'une d'entre elles, Isabelle Falque-Pierrotin. Rien de scandaleux selon elle. Le gouvernement a voulu aller vite, sans doute trop vite.
Écoutez, ça c'est la responsabilité politique du gouvernement, hein. C'est pas celle des garants. Donc ça c'est à eux d'en assumer les conséquences. Il y a une sorte de toilettage des chiffres qu'il va falloir faire à partir d'un gisement qui sera complet. Est-ce que la restitution telle qu'elle est intervenue en début de semaine, est-ce qu'elle est crédible? Nous, dans notre rapport, on l'a dit que cette première restitution, elle est acceptable parce que il y a un pourcentage grossièrement satisfaisant de la masse à analyser. C'était acceptable de laisser passer une première restitution, sachant qu'on a bien demandé que l'ensemble du gisement soit rendu disponible très prochainement.
Isabelle Falque-Pierrotin sur France Info. Quelles mesures puissantes, comme promis par Édouard Philippe, seront prises par Emmanuel Macron après les longues semaines de débat? L'intervention du président la semaine prochaine, sans doute, pas de date. Laurence Perron nous le révélait ce matin sur France Inter. Parmi les pistes explorées, il y a un nouvel assouplissement des 35 heures. Les annonces donc, peut-être la semaine prochaine. En attendant, la semaine qui s'achève n'a pas été facile au plan diplomatique pour Emmanuel Macron. Sur les dossiers du moment, Brexit, Libye, négociations commerciales avec Trump, version positive, la France s'est distinguée de ses partenaires européens, version négative, elle est isolée. France Inter à Bruxelles, Angélique Bouin.
C'est sans doute le Brexit qui laissera le plus de traces. Le président français et sa posture assez martiale contre un report d'un an a passablement agacé certains de ses partenaires. Qu'il fissure publiquement l'unité affichée jusqu'alors des 27 dans ce dossier miné a surpris. L'affaire libyenne a également donné à Paris l'occasion de se démarquer. Mais le soutien français au maréchal Haftar n'a rien de nouveau. Et c'est surtout avec Rome que les intérêts divergent. Après quelques échanges entre ambassades, la déclaration finale appelant à ce que cessent les combats a finalement pris en compte une partie des demandes françaises. Dernier dossier chaud, le président l'avait clamé haut et fort en 2018 devant les Nations Unies. La France ne négociera pas d'accord commercial avec un pays qui ne signerait pas l'accord de Paris. Et bien là encore, le chef de l'État se retrouve bien seul face aux intérêts de Berlin et de ses alliés. Donald Trump menaçait de taxer les automobiles européennes, secteur clé de l'économie, outre-Rhin, si l'on n'ouvrait pas cette négociation. Mais dans ce domaine, c'est la règle de la majorité qualifiée qui s'applique. La Commission aura donc bien en main lundi un mandat pour aller négocier un futur accord commercial avec la Maison-Blanche. De sources proches de l'Élysée, on souligne l'absurdité de cette décision à un moment où l'UE déclare vouloir porter haut et fort une ambition climatique. Pas question non plus, dit-on, qu'Emmanuel Macron, parce qu'il est seul, renonce à porter une voix forte face aux autres pays de l'Union.
Angélique Bouin à Bruxelles et la secrétaire d'État aux affaires européennes, Amélie de Montchalin, était ce matin l'invitée de France Inter. Cette phrase à retenir à propos du Brexit, notre exigence est de respecter le vote. Autrement dit, la France ne cherchera pas à pousser l'Angleterre vers un second référendum, par exemple.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Amazon, la firme américaine, entend vos conversations. Les propos captés par Alexa, l'assistant vocal d'Amazon, sont relevés et même notés par des petites mains à l'autre bout du monde. Voilà ce qu'on apprend grâce à une enquête de nos confrères de Bloomberg. Pour en parler, invité de ce journal, Gilles Babinet. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vice-président du Conseil du numérique. Vous êtes surpris?
Oui et non. C'est-à-dire que c'est quand même tellement gros qu'on se dit quand même pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pensé à ça. Et puis de l'autre côté, c'est assez normal finalement. Quand vous avez la data, vous avez et que vous êtes dans une entreprise californienne, vous avez vraiment le sentiment que vous êtes propriétaire de cette data.
Ouais.
Et donc qu'il s'agisse de voix, de texte, on manipule ça tout le temps, généralement pour améliorer les algorithmes, mais on ne se pose pas tellement toujours la question de est-ce que ce qu'on fait finalement ne contrevient pas à la morale, l'éthique et parfois la loi, ce qui est le cas dans ce cas-là.
C'est ça, l'argument avancé, c'est pour améliorer le fonctionnement, l'algorithme d'Alexa pour qu'elle réponde mieux à vos demandes. Alors, on n'est pas naïf, on se doute bien que s'il y a un assistant vocal, il doit capter 2-3 trucs. Là, ce qui est particulier quand même, c'est qu'il y a des gens, des vrais gens, des humains qui notent, qui relèvent ce qui est noté. On pouvait imaginer qu'il y ait des robots qui prennent en compte, mais là, des humains qui notent, c'est particulier quand même.
Oui, oui, vous savez, ça me rappelle une autre affaire qui était quand l'analyste Edward Snowden avait révélé que les services de renseignement américains écoutaient les conversations. Il avait également dit, mais écoutez, ils ont des outils qui permettent de lire vos emails. Et il avait raconté que il y avait eu des cas où des gens en avaient profité pour voir ce qu'écrivait leur ancienne petite amie dans leur mail, etc., etc. On voit très bien que les possibilités d'abus sont potentiellement énormes et on comprend que les contrôles sont probablement assez faibles.
Ça signifie que si on a un assistant vocal Amazon, là on peut se retourner vers la justice après cette enquête ?
Oui, d'ailleurs dans le cadre du règlement européen, le RGPD, on est exactement dans ce cadre-là. On rappelle que les amendes peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondiale de ces entreprises. Dans le cas d'Amazon, ce sont des montants absolument gigantesques.
Gilles Babinet, on se dit que si Amazon pratique cela, les autres le font aussi. Est-ce que c'est exagéré ou est-ce que, oui, voilà, Amazon le fait et les autres de la même manière?
Alors, vous avez des entreprises qui, soit parce que structurellement, elles se sont positionnées différemment et qu'elles accèdent à moins de data, font probablement plus attention.
Oui.
C'est le cas de Apple qui a toujours dit qu'ils étaient contre le fait de faire de l'algorithmie sur le traitement des usagers. Maintenant, je pense que malgré tout, rien n'est plus efficace que des règles structurelles qui s'appliquent à l'ensemble des acteurs et qui imposent une régulation. On a eu ça dans le domaine des marchés financiers, et progressivement, on va avoir ça dans le domaine des plateformes.
Détail technique et idiot pour se préserver de cela dans un premier temps. Si on éteint l'assistant vocal, ça suffit?
Oui, il y a éteindre et éteindre, mais...
C'est-à-dire éteindre et éteindre, qu'est-ce que vous voulez dire?
On s'est aperçu, on a vu qu'il y avait des failles sur les smartphones qui laissaient pas croire que le téléphone était éteint, et en fait, il y avait la possibilité de continuer à faire des interceptions sans allumer l'écran.
Merci Gilles Babinet d'avoir répondu à nos questions après les révélations de nos confrères de Bloomberg sur cet assistant vocal qui nous espionne chez Amazon. Et vous parliez d'Edward Snowden. Hier, une bonne partie de ce journal était consacrée à l'arrestation de Julian Assange et ses avocats en France qui demandent à ce qu'il soit accueilli en France. C'est un nom déguisé, en tout cas de Franck Riester, le ministre de la Culture et de la Communication, qui dit que Julian Assange a été utile en tant que lanceur d'alerte, mais que le gouvernement fait confiance aux Britanniques pour gérer son cas judiciairement. Depuis sa démission il y a 6 ans, il n'était quasiment jamais intervenu dans le débat public. Le pape émérite Benoît XVI juge la question des scandales sexuels dans l'Église suffisamment importante pour rompre le silence. Quelque chose nous dit que cela ne va pas arranger le pape François. Pour son prédécesseur, ce qui est en cause, c'est le laisser-aller après 1968 à Rome. Xavier Sartre.
Très discret depuis sa renonciation, Benoît XVI s'est donné pour ligne de conduite de ne pas faire ombrage à son successeur. Intervenir publiquement dans le débat délicat sur la pédophilie au sein de l'Église, quelques semaines après un sommet inédit au Vatican, apparaît surprenant. Recueil de notes selon l'auteur, composé de 3 parties, le long texte surprend dans le style et le contenu. Dans les 2 premières parties, Benoît XVI semble ainsi soulagé quand un théologien décède avant d'avoir critiqué ouvertement une encyclique de Jean-Paul II portant sur la théologie morale, ce qui déroute de la part d'un pape. La 3e partie la plus spirituelle, et pour ceux qui ont eu l'habitude de lire tous ces textes, celle qui lui ressemble le plus, aussi bien dans l'écriture que dans le contenu. Benoît XVI y conteste l'idée de toute réforme de l'Église, pensée comme seule entité politique, et appelle au contraire à une reconversion des fidèles, à remettre Dieu au cœur de leur vie. Car pour lui, c'est bien l'absence de Dieu qui a permis la pédophilie d'atteindre cette ampleur, ce qui n'est pas en porte-à-faux avec ce qu'exige François de la part des catholiques. Le pape émérite apparaît ainsi beaucoup moins en opposition à son successeur, en tout cas, beaucoup moins que certains ne veulent le croire. Rome, Xavier Sartre, France Inter.
Au Soudan, l'armée a pris le pouvoir, mais elle promet, sans donner de date, que le futur gouvernement sera un gouvernement civil. Voilà le tout petit élément donné ce matin pour essayer d'apaiser les manifestants qui ont bravé le couvre-feu cette nuit et qui ont le sentiment de s'être fait voler leur révolution. Des semaines de montée en tension, 6 jours de manifestations monstres dans cet immense pays du nord-est de l'Afrique, juste en dessous de l'Égypte. La chute d'Omar el-Béchir après 30 ans de pouvoir, mais ce sont donc des militaires proches du dictateur qui ont pris le relais. En Algérie, les manifestants aujourd'hui encore se battent pour que le système ne reste pas en place. Au Soudan, on parle de photocopie à propos de ce vrai faux changement de régime. Jean-Nicolas Bach est responsable du CEDEJ, un institut de recherche qui est basé à Khartoum. Il décrit l'évolution du climat hier, la cruelle déception après l'immense espoir soulevé par l'annonce du départ d'El-Béchir.
On a commencé la journée dans la liesse populaire. Les gens se sont précipités dans la rue en famille, hommes, femmes, enfants, des centaines de milliers de personnes. Et la déception n'en a été que plus grande quand on a enfin entendu et vu le visage du coup d'État, qui finalement est porté par un homme très proche du régime, un soutien encore ces derniers jours très très fort au président, qui est le ministre de la Défense. Tous les gens qui sont dans la rue, qui ont tenu cette place depuis samedi face au quartier général des armées, n'ont pas grand-chose à attendre. Ils ont plutôt l'impression d'assister à un coup d'État qui est finalement mis en scène par le régime, qui est organisé non seulement par le cœur du pouvoir, mais qui annonce une période de transition, entre guillemets, de 2 ans, contrôlée par l'armée, avec une suspension de la Constitution, une dissolution du Parlement, du gouvernement. Il faut qu'on attende au moins les prochaines 24 heures. Tout cela est très flou pour l'instant.
Un propos recueilli par Franck Madvon, je vous parlais de l'Algérie. Pour la première fois ce matin, la police a essayé d'évacuer les manifestants sans y parvenir, en utilisant la force en tout cas sur le parvis de la Grande Poste à Alger. Elle doit fermer ce soir. Hier, Jean-Michel Blanquer annonçait sur France Inter la fermeture d'une école d'inspiration salafiste dans l'académie de Grenoble. Le ministre parlait de l'établissement Philippe Grenier d'Échirolles, école musulmane privée, hors contrat, fondée il y a 3 ans. La rectrice d'académie vient de mettre en demeure les familles des élèves. L'école fermera donc ses portes ce soir, Justine Dinchet.
C'est une décision purement administrative puisque cette affaire n'a pas encore été tranchée par la justice. Début février, le tribunal correctionnel de Grenoble ordonnait effectivement la fermeture définitive de cette école qui dispense un enseignement contraire aux droits des enfants à l'éducation. La justice reproche notamment à l'établissement de ne pas respecter le programme obligatoire prévu par le ministère. Résultat catastrophique, grosse carence dans l'apprentissage du sens critique et de l'autonomie. L'école a aussi refusé un contrôle de l'inspection académique. Mais l'association qui gère l'établissement a fait appel de la décision de fermeture, elle a donc pu rouvrir. Nouvel examen du dossier prévu le 1er juillet prochain. L'Académie de Grenoble n'a donc pas attendu cette date pour ordonner la fin des activités. Il y a une semaine, la rectrice a envoyé un courrier aux familles des 45 élèves scolarisés en primaire, leur demandant d'inscrire leur enfant dans une autre école à partir de la rentrée de Pâques.
Un accident tous les 3 jours au passage à niveau. Le chiffre ne baisse pas malgré la mise en place régulièrement de nouvelles mesures de sécurité. Un nouveau rapport établit ce constat qui est assez décourageant. Rapport rédigé par la députée En Marche des Pyrénées-Orientales. Elle estime que les dernières mesures de sécurité sont concentrées sur un trop petit nombre de passages à niveau. Alors que faire? Interrogée à ce sujet, la spécialiste de sécurité routière Anne Laveau plaide pour une signalétique plus agressive aux abords des passages à niveau. Il faut changer les comportements, dit-elle, sur 2 points.
Ce contre quoi il faut lutter, c'est effectivement un comportement d'impatience, alors qu'en moyenne, le temps d'attente à un passage à niveau, c'est 45 secondes. Et puis également, c'est la routine qui fait que quand on passe systématiquement tous les matins, tous les soirs sur un passage à niveau et qu'on ne croise jamais un train, eh bien on est convaincu qu'on ne croisera jamais de train.
La déléguée générale de la prévention routière Anne Laveau chez nos confrères de France Info. Si le sujet n'était pas aussi lourd au plan économique, politique, social, environnemental, il y aurait vraiment de quoi rire. L'EPR, la centrale nucléaire, le fleuron des fleurons dernière génération a encore des soucis. De nouveaux retards sont annoncés en Finlande et en France. Les deux, mon général. Finlande, 2 mois de retard, août et pas juin pour le chargement du combustible. En France, l'autorité de sûreté du nucléaire identifie des problèmes de soudure. Il est probable que cela retarde une ouverture envisagée en 2020, reconnaît le ministre de l'écologie. Bonjour Manuel Ruffez.
Bonjour.
On en arrive à se demander si on a bien le savoir-faire pour construire ces fameux réacteurs.
C'est ce que laissent entendre les syndicats et spécialistes joints ce matin, qui tient à la complexité du chantier, du niveau de sûreté, de tout le système. On en arrive à se demander, s'interroge un syndicaliste, si on est encore capable en France de mener à bien ce type de grand chantier. Où sont les compétences, l'ingénierie, où est le savoir-faire? On n'a même plus de soudeur, souligne un autre syndicaliste, car c'est bien effectivement un problème de soudure qui se pose là. 8 soudures défectueuses et pour corser le tout, difficilement accessibles. Un groupe d'experts vient donc de dire à EDF qu'il fallait y remédier, les réparer. On attend l'avis définitif de l'ASN, sans doute d'ici l'été. Mais si l'autorité suit l'avis des experts, s'il faut réaliser de nouvelles soudures, EDF annonce déjà dans un communiqué un impact sur la mise en service, mais aussi évidemment sur le coût final de construction.
À propos d'électricité, 2 associations de consommateurs, CLCV et UFC Que Choisir, appellent Emmanuel Macron à renoncer à la hausse de près de 6% qui est prévue cet été du tarif de l'électricité. Il y a quelques jours, sur France Inter, nous vous racontions l'histoire des propriétaires d'un vaste domaine en Dordogne. Ils veulent le vendre autour d'1,5 million d'euros, ils n'y arrivent pas. Alors ils ont imaginé un jeu, 13 euros le ticket d'entrée, quelques questions simples, et vous devez évaluer la valeur d'une vitrine du manoir. Celui qui s'approche le plus du bon chiffre remporte la maison. En 10 jours, quelques 20 000 personnes avaient payé leur ticket d'entrée, soit 260 000 euros récoltés. Sauf que Thibault Lefebvre, vous nous en parliez en titre, l'autorité des jeux en ligne a mis fin à l'expérience.
Oui, par un courrier envoyé en recommandé et reçu hier par l'organisatrice du jeu. Elle s'appelle Brigitte de Massougne.
Nous, on avait pris un huissier pour être couverte de toute agression de la part de l'État. En fait, ils ont oublié de nous dire qu'il fallait un agrément au niveau de l'ARJEL, donc autorité de régulation des jeux en ligne. Ce qu'ils nous reprochent, c'est le savoir-faire du joueur. C'est un peu flou, ça.
Un flou sans loup, puisque l'Argel distingue deux types de jeux, les jeux de hasard, avec un tirage au sort, et les jeux de savoir-faire, donc basés, comme celui de Brigitte de Massougne, sur un questionnaire. Bref, c'est simple, les deux sont interdits. Charles Coppolini est le président de l'Argel.
Le principe, c'est l'interdiction des jeux d'argent et de hasard. La loi considère que même lorsqu'il y a une part de savoir-faire, ces jeux constituent quand même des loteries prohibées. Nous avions été amenés à faire interdire les jeux de fléchettes, par exemple. Les loteries sont interdites et le fait de mettre quelques questions de culture générale ne change rien au problème.
La loi est donc très claire. Seuls sont autorisés les paris sportifs, les paris hippiques, le poker et les jeux en ligne de la Française des Jeux, avec cependant une exception, les loteries destinées à des buts caritatifs. Brigitte de Massougne doit donc supprimer son jeu. Elle risque, dans le cas contraire, une peine de 3 ans de prison et 90 000 euros d'amende.
En football, 32e journée de Ligue 1 à partir de ce soir, Dijon-Amiens et Nantes-Lyon. Et puis alors que la saison des rumeurs et des transferts va commencer, propos ce vendredi du père et agent de Neymar, il ne veut pas partir, il veut rester au PSG. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour Bruno.
On parle de rugby avec vous, les clubs amateurs ne veulent pas d'un entraîneur étranger pour le 15 de France. Le président de la fédération Bernard Laporte avait organisé une consultation, le résultat est tombé ce matin, c'est non.
Oui, un club sur deux s'est exprimé seulement, c'est une faible participation, 51%, mais en effet une majorité nette s'est dégagée contre la nomination d'un sélectionneur étranger, 59% vous l'avez dit n'en veulent pas. Bernard Laporte, le président de la fédération, avait pourtant contacté plusieurs candidats parmi les meilleurs au monde, avait-il répété il y a quelques jours, Warren Gatland et Joey Smith par exemple, les néo-zélandais, ou Eddie Jones l'australien, et ce matin Bernard Laporte s'est engagé à respecter ce choix de la base. Le successeur de l'actuel sélectionneur sera donc français. Les candidats sérieux ne sont pas pléthores. En haut de la liste, Fabien Galthié, dont le nom revient régulièrement pour endosser le costume, l'ancien capitaine des Bleus, plusieurs fois pressenti mais jamais appelé, est aujourd'hui sans club et donc le mieux placé pour prendre les commandes. Alors le contrat de Jacques Brunel actuellement en poste court jusqu'en 2020, mais son successeur, qui sera nommé avant l'été, doit arriver après la Coupe du Monde au Japon cet automne pour mieux préparer le Mondial de 2023 qui lui aura lieu en France.
Merci Jérôme. Quelques rendez-vous sportifs du week-end. Pour la première fois de l'histoire, une boxeuse iranienne dispute un match officiel, Sadaf Kadem. Le combat se déroule à Royan. Elle s'est entraînée dans la clandestinité. La boxe est interdite aux femmes dans son pays. En Chine, le 1000e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1 à Shanghai. Et puis aux États-Unis, l'un des tournois de golf les plus importants de l'année, le Masters d'Augusta. Trois Américains en tête après la première journée, Koepka, DeChambeau et Mickelson. J'ai testé pour vous chaque vendredi dans ce journal de 13h cette semaine. À Toulouse, Stéphane Iglesis a testé pour nous les nouveautés de la Cité de l'Espace.
Bonjour madame, c'est la première fois que je viens.
Alors avec le ticket, vous avez accès aux expositions, juste ici, où vous avez 4 étages à visiter. Vous avez accès au jardin, vous aurez des maquettes à découvrir comme la maquette de la station Mir ou de la fusée Ariane. En traversant les jardins, vous avez accès à l'autre bâtiment qui s'appelle l'Astralia, dans lequel vous avez 2 films. Vous avez l'IMAX, le film sur Thomas Pesquet, et le planétarium, avec l'écran au-dessus de la tête. Vous regardez l'écran comme si c'était le ciel.
Je profite éhontément du fait qu'un groupe d'enfants soit parti pour demander gentiment à un médiateur de la Cité de l'Espace si je peux marcher sur la Lune. Donc c'est 3 sangles qui sont mises autour de moi. On a l'impression de faire du film canard. On tourne dans tous les sens. C'était très rapide, mais c'était effectivement très amusant.
Dans le parc, il y a la maquette vedette de la Cité de l'Espace.
Alors, Philippe Drodeau.
Moi, je suis chargé de mission à la Cité de l'Espace.
Là, donc, on a vu dehors une fusée Ariane 5 et on arrive vers la station...
Station spatiale Mir, qui a été une station internationale à la fin. Donc, on est au bord d'un vaisseau Soyouz dans lequel on peut pénétrer et dans lequel on peut s'apercevoir de ce qu'a vécu Thomas Pesquet, comme tous les astronautes, ou beaucoup des astronautes français, et puis tous les cosmonautes et tous ceux qui luttent actuellement, puisque c'est la seule capsule qui peut être utilisée actuellement dans l'espace, hormis les Chinois.
Je suis donc à la Cité de l'Espace, à la salle IMAX, pour le film Dans les yeux de Thomas Pesquet.
On croit toujours qu'on est le centre du monde en tant qu'être humain, tout bonnement. C'est peut-être pas complètement le cas, et puis ça fait penser à la planète encore plus.
Tout ça, ça creuse. La Cité de l'Espace me propose donc de composer un menu spatial. J'ai pris du sarrasin lyophilisé, ensuite du porc aux légumes en tube et du pain noir genre croquette. Je ne souhaite pas bon appétit aux auditeurs de France Inter parce que c'est pas très appétissant.
Il y a beaucoup de simulateurs, là je vais aussi pouvoir me prendre pour un skipper de la route du Rhum comme Rosie.
Du coup sur la carte ça nous montrait les courants faibles et les courants forts et fallait suivre pas avec la carte les courants faibles et forts. Pour gagner la course fallait céder des courants.
Et tu as gagné ?
Oui.
Bilan de la journée, c'était très intéressant, passionnant, foisonnant. Avec juste 6 ou 7 heures, ça suffit pas. Il faut vraiment revenir. L'essayer, c'est l'adopter.
Bon, c'est noté. Merci Stéphane. Marcher comme sur la Lune et toutes les autres possibilités à la Cité de l'Espace. C'est donc à Toulouse, évidemment. La semaine dernière, Philippe Lefebvre testait pour nous la fabrication chez soi de produits ménagers, option bio plutôt. Eh bien, l'idée est peut-être à creuser, en tout cas si on en croit 60 millions de consommateurs, puisque l'association publie un hors-série selon lequel beaucoup de produits nettoyants contiennent des produits dangereux pour la santé et l'environnement. C'est la série télévisée la plus regardée de toute l'histoire. Game of Thrones, mélange de fantastique, d'histoire médiévale, de sexe et d'effets spéciaux en tout genre. La toute dernière saison, la 8e, commence dimanche soir. C'est sur OCS, dans l'Hexagone. France Inter est partenaire de cette saison. Et la chaîne qui l'a diffusée en premier, c'est évidemment HBO. Aux États-Unis, Alexandra Akun, pour ce qui est d'entretenir la dépendance des millions de fans à leur série préférée, les Américains savent y faire.
Ne jamais laisser redescendre la pression, telle pourrait être la devise de HBO. Voilà pourquoi la campagne de communication pour cette nouvelle et dernière saison a débuté en réalité au lendemain de la diffusion du dernier épisode de la saison 7, le 27 août 2017. À partir de là, HBO, qui possède au moins 6 comptes officiels sur les réseaux sociaux, va poster 2 fois par jour tout et rien à propos de la série, histoire d'entretenir la communauté de fans. 44 millions d'abonnés, une communauté qu'au fil des ans et face au succès, la chaîne a appris à chouchouter et même à impliquer Ava Cahen, auteur aux éditions du Rocher de Game of Thrones décodé.
On voit un dragon de glace dans la saison 7 et ce dragon de glace crie. En réalité, ce sont les cris de fans qui ont été regroupés dans un bar à Chicago, un petit peu alcoolisé. Le cri a été remasterisé, c'est le dragon de glace. HBO a pris vraiment la mesure de la valeur du fan.
Résultat, lorsque la première bande-annonce est publiée le 6 décembre 2018, c'est un raz-de-marée. La vidéo de 33 secondes ne dévoile rien du tout, qu'importe, elle est visionnée 120 millions de fois, il y en aura désormais une par mois. Et parce qu'à chaque fois Game of Thrones se doit d'occuper l'actualité mondiale des séries du premier au dernier épisode, HBO n'a pas cédé un épisode par semaine et c'est tout.
C'est le jeu pervers qu'ils entretiennent avec le spectateur, comme si on allait à la messe. Hein. Et ce calendrier, il est important pour adhérer à cette série.
Autrement dit, vous en avez minimum jusqu'au 19 mai. There's only one war that matters. And it is
here. Game of Thrones, début de la 8e saison, dernière saison dimanche. Et le podcast sur France Inter des experts décortiquent la série avec Charline Roux. Comme ça, vous êtes au point avant de regarder la dernière saison. Disney lance sa plateforme de streaming le 12 novembre aux États-Unis. Annonce ce matin. Au fil des mois, l'offre s'élargira à d'autres régions avec évidemment tout le catalogue, les dessins animés, les Pixar, les Star Wars et les Marvel. Les succès au cinéma, est-ce qu'ils racontent d'une société? C'est un des récits à ne pas manquer sur franceinter.fr. Valérie Cantier analyse le succès de Unplanned, un film anti-avortement qui talonne Captain Marvel et Dumbo aux États-Unis.
La météo avec Gauthier, le fabricant français de mobilier contemporain qui met de la vie dans les espaces, salons, séjours et les chambres pour petits et grands.
Sébastien Léas.
De nouvelles averses se développent cet après-midi entre les Alpes du Sud, le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse. Ces averses prennent par moments un caractère orageux et peuvent également s'accompagner de grêle. Le Cap-Corse est épargné et garde un temps plus sec. L'après-midi est nettement plus clément sur le reste du pays avec un soleil radieux entre les plages de l'Atlantique, les bords du Rhône et les Préalpes. Au nord de la Seine, en Lorraine, en Alsace, en Franche-Comté et le long des Pyrénées, des nuages fleurissent dans le ciel mais l'après-midi reste plutôt ensoleillé. Après une matinée fraîche, les températures retrouvent des valeurs de saison cet après-midi. Prévoyez 10 à 16 degrés sur la moitié nord et 16 à 21 degrés plus au sud. Près de la Manche, l'ambiance est un peu rafraîchie à cause du vent. L'après-midi est aussi bien venté autour du golfe du Lion et dans la vallée du Rhône.